Chapitre 2. Bidard n'est pas bidard. Martin Huma dit alors : Je suis heureux, chevalier, de vous voir aujourd'hui partager mon opinion sur ces misérables. Vous pouvez compter sur moi. Je suis prêt à combattre à vos côtés. Je n'en ai jamais douté. J'en suis enchanté. Je n'ai qu'un regret.
Lequel ?
C'est que votre loyauté, votre vaillance, ne vous ait pas laissé partager plus tôt mon opinion. Si vous m'aviez permis de combattre ces misérables, en bandits, comme il le fallait, et non en gentilshommes, comme vous l'avez fait, nous aurions évité ces derniers malheurs et grandement avancé les choses. Vous avez raison, mais vous me connaissez. Je ne pouvais pas, alors. Maintenant, je sais à qui nous avons affaire. Je vous obéirai. Il faut sauver cette troisième victime par tous les moyens. Commandez. Martin Huma alluma une cigarette et dit : C'est entendu. Parlons un peu de la première victime dont je n'ai pas de nouvelles récentes. Comment va le comte de Villacerboli ?
Le comte va de mieux en mieux. Je puis vous en donner des nouvelles fraîches. Je suis allé le voir ce matin.
Martin Huma était, on le sait, parfaitement renseigné sur le malade. Cependant, il voulait laisser au chevalier le plaisir de croire qu'il lui rendait service en l'informant de ce qui se passait à Saint-Germain.
Le comte, dit le chevalier, a pu, en s'appuyant au bras de l'infirmier, faire le tour de sa chambre.
Bravo, c'est merveilleux. C'est un exploit qui m'a rempli de joie et dont mon cher Anlio est extrêmement fier. Tant mieux. Nous pourrons dire dans un joyeux jeu de mots qu'il marche vers la guérison.
Le chevalier se mit à sourire.
Oui, mais à ce propos il me vient une inquiétude.
Laquelle ?
Quelle va être la situation du comte une fois rentré chez lui ?
Ne sera-t-il pas livré à ses ennemis ?
Pourquoi ?
À l'hôpital, il est bien gardé, mais rentré chez lui, qui donc pourra le surveiller ?
Or, lui, que nulle carte postale, barré d'un X, aucune lettre de deuil avec la fameuse croix ne parviendront à faire taire, sera fatalement réduit au silence par un coup de poignard, qui cette fois ne manquera pas son but. Ou bien, je le crains de plus en plus, par un breuvage sucré, un bon café quelconque, que la douce et chère Focamorel lui fera prendre avec un sourire.
Martin Huma étendit le bras et répondit au chevalier : Rassurez-vous, j'ai prévu cela.
Le comte est décidé, au sortir de l'hôpital, à conserver auprès de lui, pour continuer les soins dont il ne peut encore se passer. Les deux infirmiers, qui lui ont, durant ces longs jours de douleur, manifesté tant de dévouement et d'attachement, à gens qui, pour la belle Focamore, sont pleins de respectueuses déférences, en qui elle a toute confiance, à qui elle a fait de très jolis cadeaux, qu'elle a comblé de dons chaque fois qu'elle vint à l'hôpital, braves gens qu'elle pense tenir en ses mains et qu'elle croit pouvoir faire agir au gré de ses caprices, mais qui, comme vous le savez, sont des agents à moi.
Ah, très bien.
Donc, pour le moment, et cela pendant quelque temps encore, nous n'aurons rien à craindre d'un retour du comte dans son hôtel, chez lui.
Après un silence, Martin Huma reprit. J'ai fait, ces jours-ci, la comparaison de l'empreinte sanglante que nous avons trouvée sur votre bureau, chevalier, et qui a été faite le soir du duel, et des empreintes diverses que nous avons prises chez le banquier Castanier. Ces empreintes sont les mêmes. Celles que nous relevâmes ici étaient informes, écrasées, éclaboussées. Néanmoins, le dessin me permettait un contrôle suffisant. Il n'y a pas à douter, c'est la même main qui s'est apposée chaque fois.
La même main ?
Oui.
Mais la main de l'homme que vous avez tué avec tant de vaillance a été coupée au poignet par celui à qui j'ai démantibulé, moi, un bras et l'épaule, ou bien plutôt par un complice qui a pu s'introduire ici, accomplir cet acte et enlever en même temps son compagnon, les bourreaux invisibles. De ceci, nous n'avons pas pour le moment à nous soucier. J'ai dit que la main de l'homme tué par vous a été coupée au poignet.
C'est donc que cet homme serait celui qui a accompli les précédents forfaits ?
Martin Huma ne répondit pas sur le champ. Il garda penché son front, secoua du bout du doigt la cendre de sa cigarette, puis il dit « Mes chers amis, rappelez-vous ceci. Ces gens-là obéissent toujours à la même tactique. En somme, ils n'ont qu'un désir, c'est de tromper ce pauvre Martin Huma, c'est de le faire tomber dans un piège, c'est enfin de le railler convenablement et se moquer de lui.
Comment cela ?
Et où voyez-vous une relation entre cette main coupée et tous les drames précédents ?
Mon cher chevalier, lorsque je cherchais les bottines vernies dont une était abîmée au talon, Il me fallait faire une perquisition par toute la France, ce qui semblait à Courville une chose impossible et qui, en vérité, l'était. Par le plus grand des hasards, vous savez que je nie le hasard, sauf le hasard que nous faisons naître. Donc, par le plus grand de ces hasards qui n'existent pas, j'ai trouvé chez Agnaf, d'une rue dans laquelle je passais tous les jours, précisément une paire de bottines vernies. Ces bottines correspondaient à celles que je cherchais. Je me souviens. Tout part de ce principe. Quand quelque chose pourrait me mettre sur la voie, il me fournit ce quelque chose en ayant soin de le dénaturer, de le maquiller, selon le terme du métier, de façon à me lancer sur cette piste, à me faire courir, et à me faire tomber, au bout de ma course, dans un fossé ridicule. Peut-être avez-vous encore raison. Ici, la main de ce malheureux me semble être le pendant de la bottine éraillée. Le chevalier et moi nous regardions Martin Numa avec un profond étonnement. Il reprit. Oui, l'empreinte laissée sur la table de votre bibliothèque est presque identique aux empreintes précédentes. Et on coupe la main qui aurait pu faire cette empreinte. Cela voulait dire, pour tout autre que Martin Numa, l'homme à qui manque cette main est bien celui qui a fait ces empreintes. Donc, nous tenons le véritable auteur de tous ces crimes. En effet. Martin Numa secoua la tête et dit. Pas pour Martin Numa, qui ne s'arrête pas aux apparences seules. Si j'ai fait bertillonner le cadavre, si j'ai reconnu que cet homme était le mécanicien du comte di Villa Cervoli, et nous l'appelons pour le moment Baron Pompéri, je crois fortement que l'empreinte laissée sur votre bureau n'a pas été faite par la main qui lui a été coupée. Nous ne pûmes nous empêcher de tressaillir à cette déclaration. Il aurait fallu pour cela, reprit Martin Numa, très posément, couper non une main, mais les deux, à ce malheureux, car en lui laissant une main, on m'a permis de voir qu'elle ne répondait pas à l'empreinte, et qu'elle était de beaucoup plus petite que la tache sanglante laissée sur le papier. Même en écrasant la paume de la main et les doigts, je ne parviens pas, avec la main laissée au cadavre, à couvrir la surface de l'empreinte sanglante découverte ici. Donc, c'est une autre main que celle de ce malheureux qui s'est posée sur la page blanche de votre bureau. Ils ont donc coupé la main de cet homme pour tromper Martin Numa. Et Martin Numa a fait comme pour les bottines, sans assoiffer un quartier, sans dégringoler comme un cambrioleur par les toits des maisons. Il a contrôlé la main et l'empreinte, s'est aperçu très bien, avec la plus grande facilité, du piège qu'on lui tendait. Cette déclaration causa au chevalier la plus vive impression. « Oui, dit-il, plus vous me parlez de ces misérables, plus je vois qu'on doit agir avec eux, non comme avec des bandits habituels, mais comme avec des bêtes fauves. Nous aurions tort de nous tenir derrière nos scrupules de loyauté, de chevalerie. Nous serions les dindons de cette farce tragique. Mon cher ami, vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire contre ces gens. Commandez. Je vous suivrai. Je suis tout à vous. » Martin Numa remercia le chevalier de son précieux concours, auquel il ne manquerait pas de faire immédiatement appel. Puis, vibrant, indigné, le chevalier se retira. Le roi des détectives, quand le chevalier fut sorti, me dit « Maintenant, mon cher Courville, nous avons une course à faire. Bravo, allons-y. C'est une démarche qui n'offre rien de bien dangereux, mais qui ne doit pas manquer d'intérêt, je le suppose. Nous allons nous rendre chez le juge d'instruction, M. de Capestin. Pour quelle raison ? Nous allons trouver sur la sellette le chauffeur Braillard que j'ai fait cueillir. Ah oui, j'y suis, le soir du duel tragique chez le chevalier Fontis. Parfaitement. Le chauffeur qui se tenait devant la grille de l'hôtel du chevalier et à grands éclats de voix excitait les chiens, les faisait aboyer, et pour sa part contribuait à produire un tapage énorme. Précisément. Ce chauffeur qui fut si prestement empoigné par mon Prosper, et en deux tours de main, ficelé, ligoté, remis dans son taxi et emporté vers le dépôt. J'ai assisté à cet habile travail. Depuis, pendant ces quelques jours, nous avons laissé, selon l'habitude, le chauffeur cuire dans son jus, mijoter doucement. Vous lui avez donné le temps de réfléchir. Pendant qu'il allait établir sa défense, se créer des alibis, bien fonder les mensonges qu'il servirait à la justice, moi, j'essaye de découvrir la vérité sur son compte. Ça n'a pas dû être commode. Je devais découvrir son identité, savoir qui il était, d'où il venait, et comment et pourquoi il se trouvait mêlé à cette dramatique affaire. Vous y êtes parvenu ? Nous allons voir si cet individu est aussi habile menteur que bon braillard. »
Peu après, nous entrions dans le cabinet du juge. Martin Numa et moi, sur l'invitation de M. de Capestin, nous prîmes place sur des chaises devant la croisée du bureau. L'on introduisit le chauffeur. C'était un garçon jeune encore, assez fort, avec une grosse tête, des yeux à fleur de front, le menton lourd, une brute, un imbécile, en somme. Il roulait des gros yeux, et gauche, lourdeau, il alla s'asseoir sur la chaise que lui désigna le juge devant son large bureau. L'interrogatoire commença. Simple vérification d'identité, où la présence d'un avocat n'était pas obligatoire. M. de Capestin demanda au chauffeur « Comment vous appelez-vous »«
Bidard, Joseph. »
« Vous êtes chauffeur habituel de la compagnie ?»«
Pas précisément. Seulement, un camarade qui était malade m'avait confié son volant. Et avec l'acceptation du gérant du dépôt, j'ai pu monter sur le siège. »
M. de Capestin demanda brusquement « Comment s'appellent donc vos clients ?»
Le chauffeur tressaillit et répondit « Depuis quand, monsieur le juge, les chauffeurs demandent-ils à leurs clients leur nom, leur adresse et leur carte d'électeur ? Ça ne se fait pas, ça ?»
« Quand ce sont des chauffeurs ordinaires et des clients ordinaires, je ne dis pas. Mais quand ce sont des chauffeurs comme vous qui chargent des clients comme eux, la chose est bien différente.
Je ne comprends pas. »«
Eh bien, je vais vous faire comprendre. Vous êtes complice des gens qui se trouvaient dans votre voiture. »«
Complice de quoi ? » ?»«
Est-ce que nous pouvons répondre de ce que font nos clients après que nous les avons débarqués à l'endroit qu'ils nous ont indiqué ?»«
Parfaitement. Quand ces clients vous ont choisi exprès pour les mener à cet endroit... » et pour les seconder dans la besogne qu'ils devaient faire.
Monsieur le juge, ce que vous dites, c'est très bien, mais ça n'a aucun rapport avec mon affaire. Si ces clients ont fait quelque chose qui vous intéresse, moi, je m'en lave les mains. »
Le juge d'instruction regarda le chauffeur et, après un moment de silence, il dit « Vous vous appelez Bidard, Joseph, de Tulle, Corrèze. »
« Parfaitement. »
« Vous devez connaître sans doute un nommé Mathias Loupière. »
À ce nom, le chauffeur ne put réprimer un frémissement. Cependant, secouant la tête, il dit « Je connais pas. »
« C'est un de mes clients dont vous voulez parler ?»«
Pas précisément, mais c'est le chauffeur même de vos clients. »
« Qu'est-ce que vous me dites là ?»«
Je vous dis que les clients que vous avez menés dans votre voiture, ce soir-là, avaient comme chauffeur Mathias Loupière. »
« Comprends pas. »
En d'autres termes, le bidard Joseph n'est autre qu'un nommé Loupière Mathias qui, avant d'exercer la profession de chauffeur extra, a fait quelques extras en Nouvelle-Calédonie.
« C'est pas vrai !»
hurla le chauffeur.
« Je suis Bidard Joseph, et je connais pas Mathias Loupière !»
Très calme, le juge répondit « Peu importe, car nous vous reconnaissons très bien. Et comme on vous a bertillonné, que votre fiche a été retrouvée, nous avons parfaitement établi votre identité. »
Le chauffeur hurla « Puisque je vous dis que vous faites erreur, je suis Bidard !»
« Eh bien, Bidard Loupière, voici vos fiches, qui nous disent que Bidard et Loupière ne sont qu'un seul et même individu. » Alors le chauffeur, après deux ou trois cris de colère et de rage, après des mouvements de révolte, réprimé aussitôt par la poigne solide des gardes qui le surveillaient, fut remis sur la chaise et maintenu ainsi. Dans la lutte, ses yeux hagards tombèrent sur Martin Numa. Alors il se calma tout à coup et il s'écria « Maintenant je comprends. »
Pas moyen de faire le malin.
C'est pas la peine d'essayer d'être plus fort que la justice, du moment qu'il y a là Martin Numa. » Il se laissa donc aller, accablé, et n'opposa plus la moindre résistance. Le juge d'instruction lui demanda « Vous êtes donc résolu désormais à parler et à dire le plus de vérité possible ?» De nouveau, le chauffeur tourna les yeux vers Martin Numa et dit « Il faut bien, devant Monsieur Martin Numa. On ne peut pas faire autrement. Cet homme vous arrache de l'estomac les mots que vous vouliez manger. » Il ajouta « Interrogez-moi, je répondrai. »
Monsieur de Capestin reprit « Ainsi donc, vous connaissez les gens que vous conduisiez ce soir-là ?»
Loupière répondit « Jetant toujours de temps en temps un coup d'œil du côté de Martin Numa. » Il subissait sa domination sans que celui-ci ait fait le moindre geste, sans qu'il ait eu le moindre mouvement de visage.
« Voilà, monsieur le juge, je vais vous révéler tout ce que je sais. Et monsieur Martin Numa peut vous dire que si ça vous semble bizarre, c'est la vérité. »«
C'est bien, nous vous écoutons. Ces gens que j'ai conduits
Je les connais pas, à vrai dire, mais je connais un d'eux qui est espagnol.
Un espagnol?
C'est un camarade avec qui j'ai fait quelques affaires. Monsieur Martin Dumas me comprend.
Continuez.
C'est un bon garçon, ma foi, avec qui je m'accordais très bien. Ces jours-ci, il est venu m'indiquer qu'il y aurait un coup assez important à faire avec des amis à lui. On décambriolait un petit hôtel habité par un noble italien, un grand seigneur maniaque, qui vivait seul avec un vieux domestique, enfin, une maison tout à fait propice pour notre genre d'exercice. Seulement, il y avait deux chiens. C'était gênant pour entrer chez le noble seigneur. Alors il fallait occuper les chiens près de la grille, les faire aboyer, attirer l'attention de ce côté pendant que d'un autre, par le fond du jardin et du parc, on entrerait pour cambrioler la maison.
Très bien, après.
Ça se trouvait à Passy. On me chargea de dénicher une voiture pour conduire les camarades jusque là-bas. Je devais en outre rester devant la grille avec la carriole pour attirer les chiens de mon côté et être là quand on reviendrait avec la cambriole. Voilà.
Et alors ? Demanda le juge.
Le chauffeur répondit : Mon rôle s'est borné à ça. J'ai été avec ma voiture à chercher mon camarade l'Espagnol.
À quel endroit ?
Boulevard Haussmann. Il est monté à côté de moi sur le siège. Puis nous sommes partis dans la direction de l'Étoile et là, nous avons chargé trois individus.
Vous ne les connaissiez pas, ceux-là ?
Non, monsieur le juge.
Vous dites bien la vérité, vous ne les connaissiez pas ?
Loupière se tourna vers Martin Dumas et lui dit : Monsieur Martin Dumas, vous pouvez voir que je dis la vérité, que je ne mens pas. Dites-le à monsieur le juge.
C'est bien, reprit monsieur de Capestin. Continuez.
Donc, vous avez chargé trois individus, puis vous êtes allé à Passy.
Oui, monsieur le juge.
Là, dans la rue déserte, on m'a fait arrêter la voiture un peu avant la grille du petit hôtel du seigneur italien, comme si j'étais en panne. J'ai bourré une pipe et j'ai commencé à faire mon tapage comme c'était convenu.
Il n'y avait donc que ces quatre individus avec vous ?
J'en avais chargé quatre, mon camarade l'Espagnol et ses autres amis. Mais j'avais vu que dans la rue, ils parlèrent à trois ou quatre autres individus, qui devaient être arrivés là bien avant nous et se tenir aux aguets, comme ça se fait dans toute affaire de cambriolage bien conduite, ainsi que M. Martin n'eût pas pu le dire.
Après ? Demanda le juge.
Après, quand les chiens ont commencé leur tapage, que moi je les excitais, mon camarade l'Espagnol et les amis de ses amis se sont dirigés vers une autre maison. Je les ai vus disparaître. C'est à ce moment que tout à coup il est venu d'autres individus dont l'un m'a cherché querelle. J'étais empoigné, ficelé, emporté, et me voilà. C'est tout ce que je sais.
Le juge tint pendant quelques instants Loupière sous son regard. L'étudiant, cherchant à lire en lui si cela était vrai, si ce n'était pas un récit arrangé d'avance, une défaite préparée pour un cas malheureux.
Loupière, comprenant cette interrogation du regard, dit au juge : Je vous affirme que c'est là tout ce que je sais, et que c'est tout le rôle que j'ai rempli dans cette affaire. Qu'est-ce que j'ai fait, en somme ? J'ai aidé à cambrioler une maison, je suis pipé. Monsieur Martin Dumas peut vous dire que c'est bien la vérité, parce que maintenant, je commence à croire, quand une affaire organisée comme celle-là, depuis longtemps, à ce que m'a dit mon camarade espagnol, un coup sûr, de tout repos, préparé comme il l'était, pour qu'on soit arrivé à nous pincer, il faut que Monsieur Martin Dumas s'en soit mêlé.
Le juge dit alors :
C'est bien. Dites-nous maintenant où vous rencontriez, dans quel endroit avaient lieu vos entretiens et l'échange des projets avec votre ami l'Espagnol ?
Loupière répondit : On n'avait pas d'endroit fixe. On allait un peu partout. On a même été dans des établissements de danse pour dépister justement la police.
Mais enfin, ayant accompli ce cambriolage, où pensiez-vous qu'on vous donnerait rendez-vous pour vous remettre votre part de butin ?
Loupière répondit : Pour cette affaire, on m'avait promis une somme, quel que soit le résultat du cambriolage. C'était entendu et le lendemain de l'affaire, l'Espagnol devait me remettre de la main à la main la somme convenue. Je n'avais donc qu'à attendre le rendez-vous de mon ami l'Espagnol pour toucher ma part.
Mais ces gens, réellement, vous ne les avez jamais vus ? Vous ne vous doutez pas du tout de ce qu'ils peuvent être ? Vous ne savez pas qui ils sont ?
Non, monsieur le juge.
En un mot, vous ne les reconnaîtriez pas si on les mettait en face de vous ?
Je ne crois pas, monsieur le juge.
Le juge demanda :
Et l'Espagnol ?
L'Espagnol, oui, bien que souvent j'ai eu du mal à le reconnaître, parce qu'il m'arrivait tantôt habillé comme un valet de chambre de bonne maison, et tantôt comme s'il avait été lui-même le maître du valet de chambre que je connaissais. de sorte qu'il faudrait que je l'entende parler, que je le voie, enfin, pour bien le reconnaître. » Martin Numa fit un geste au juge qui dit alors à Loupière « C'est bien. Voulez-vous signer vos déclarations ?» Loupière eut un moment d'hésitation et dit « Pardon, monsieur le juge, mais si j'ai parlé, à cause de monsieur Martin Numa, à qui on ne peut rien cacher et qui devine tout, je voudrais tout de même pas que les camarades sachent que j'ai mangé le morceau, parce que c'est indigne de moi, et que ça me ferait grand tort parmi la corporation. Si on sait que je suis un traître, on me fera une sale affaire. Ou bien je suis condamné à mourir de faim et je pourrai jamais plus travailler. » Loupière fit cette déclaration avec une franchise et une inconscience absolument déconcertantes. Martin Numa, se levant alors avec son flegme imperturbable, lui dit « Je vais demander à monsieur le juge, mon bon Loupière, de réserver ses déclarations et de les garder sans les produire. Elles ne seront pas livrées au débat, de sorte que personne ne saura parmi vos camarades que vous avez subi à ce point mon influence. » Convaincu, Loupière se leva, s'approcha de la table du secrétaire du juge d'instruction et dit « Comme ça, ça va, je veux bien signer. Du moment qu'on ne le saura pas, ça m'arrange. » Puis, ayant posé sur le papier sa grosse signature, il demanda au juge « Est-ce que les camarades sont pris comme moi ?»« Vous le saurez plus tard, » répondit M. de Capestin. « Et l'espagnol ?»« On vous le dira. » Loupière ajouta « Ça, ça m'intéresse. » Parce que réussi ou pas réussi, s'il est libre, faudra qu'il me verse ma part, comme c'était convenu. » Martin Numa, en souriant, dit alors « Ce sont des comptes qui s'arrangeront plus tard. » « Bien, monsieur Martin Numa, du moment que vous me le promettez, ça va bien. » Alors on entraîna Loupière et on le réintégra dans sa cellule. Une fois Loupière sorti, M. de Capestin partit d'un grand éclat de rire. « Je ne savais pas, mon cher Martin Numa, que vous inspiriez aux cambrioleurs une telle confiance. »« Peut-être bien quand ils sont pris, mais jamais quand je dois les prendre. » Alors M. de Capestin demanda « À votre avis, que devons-nous faire ?»« Je crois que le meilleur est de garder encore quelque temps ce brave Loupière à notre disposition. Puis, si quelques personnes se présentent pour réclamer le cadavre du baron Pompéry, le prendre avec nous ?» et lui montrer ces gens que nous mettrons en présence de la victime du chevalier Fontis. Cela peut amener un résultat, en effet. Peut-être. Peut-être reconnaîtra-t-il parmi ses visiteurs, ses pseudo-parents, ou ses parents véritables, ses amis et connaissances ou compatriotes. Que sais-je, à quel titre ces gens viendront? Peut-être, dis-je, reconnaîtra-t-il ce fameux Espagnol dont Octavie, la danseuse, tout à coup délaissée, s'est facilement consolée avec mon fidèle Prosper. Martin Numa ajouta « Le second moyen qui, à mon avis, serait le meilleur, est de relâcher dans quelques jours, sans attendre ses demandes de reconnaissance du cadavre, de relâcher notre Loupière, et de le laisser aller à la recherche de son ami l'Espagnol, afin de rentrer dans la possession de la prime qui lui a été promise. » « Mon cher Martin Numa, dit M. de Capestin, je ferai comme vous m'indiquerez, et nous nous servirons de ce Loupière comme bon vous l'entendrez. »